Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h. Il y a Charles Magnin autour de la table. Il y a la journaliste Karine Galli, le propriétaire de gîte Jérôme Lavrieux et le grand reporter Baptiste Desmontiers. On parle de nos ados dans un instant. Dans Estelle Midi, ils boivent moins d'alcool, ils font moins l'amour. Est-ce que nos ados sont devenus trop sages? On vous avait parlé du tricot qui fait un carton chez les ados il y a quelques semaines. Dites-nous ce que vous en pensez, en tout cas au 32-16. Il y aura le Tu préfères, 14h25. Idée de Charles Magnin. Tu préfères les volets ou les rideaux? Et puis nous aurons RMC Conso avec Sofiane Aklouf, 14h30. On va vous parler de ce vol de données justement qui a eu lieu dans plusieurs entreprises de tourisme. Et puis on terminera avec les immanquables, Charles.
Oui, on parlera de Malte qui va offrir un abonnement ChatGPT+ à tous ses citoyens ainsi qu'une formation à l'IA. Mais oui, le pays est en pointe en matière d'intelligence artificielle. Et puis un vrai dilemme, partir en voyage, en vacances avec sa belle-mère. Enfer ou paradis? Bon, bah, et ben pourtant dans cette étude de psychologie.com, et bien visiblement les vacanciers sont ravis quand ils partent avec leurs
Enfants. Parents.
Exactement, bah, ça soulage une partie de la charge mentale.
Et elle paye.
Oui, mais il y a des conditions.
Il y a des réflexions.
Sa résidence secondaire.
Voilà.
Enfin, c'est la belle-mère rêvée, celle-là.
Il y a certaines conditions pour réussir ces vacances avec ses beaux-parents. Je vous les donnerai, promis, tous les bons tuyaux à 14h40.
On a hâte.
Oui.
RMC Estelle Midi.
14h06 sur RMC. On va poursuivre Estelle Midi tout de suite avec la chute du jour. Et c'est celle de l'alcool chez les jeunes. 20% des moins de 17 ans n'ont encore jamais consommé d'alcool contre seulement 5% au début des années 2000. Les jeunes boivent moins et font également moins l'amour. L'année dernière, près d'un tiers des 18-24 ans n'a pas eu de rapport sexuel. Les temps changent, Charles.
Oui, 28% l'an dernier, alors que c'était à peine 5% des jeunes en 2006 qui n'avaient pas eu de rapport sexuel depuis un an. Sur cette question de la sexualité des jeunes, les experts pointent deux facteurs. Le mouvement MeToo est passé par là, ainsi que le confinement qui a eu pour effet de retarder l'âge des premières rencontres. L'autre tendance de fond, c'est l'alcool. Au début des années 2000, 95% des jeunes de 17 ans avaient déjà expérimenté l'alcool. Aujourd'hui, ils sont environ 80%. Ça veut dire que 20% des jeunes de 17 ans n'ont jamais bu d'alcool. La France figure dans le tiers des pays européens affichant la plus faible consommation de boissons alcoolisées chez les jeunes. La consommation de tabac, de cannabis sont aussi en nette baisse chez les jeunes ces 10 dernières années. En revanche, il faut le dire, d'autres substances ont fait leur apparition, parfois de manière spectaculaire, comme le protoxyde d'azote. Enfin, deux autres tendances qui montrent que les jeunes sont de plus en plus sages. Les boîtes de nuit, qui sont à la peine, les fermetures se multiplient, alors qu'un autre marché se porte très bien, celui des jeux de société, pour des soirées beaucoup plus tranquilles.
Alors, nos ados sont-ils devenus trop sages? Je me tourne vers vous, Baptiste Desmontiers, qui avait 4 ados à la maison.
Oui, alors moi, elles sont jeunes encore, 14 ans, mais je suis très content. Moi, ces chiffres me réjouissent absolument. Alors, quand elles auront 22 ans ou 20 ans, et je serai peut-être en train de me dire, zut, elles sont passées à côté de leur adolescence. Mais moi, l'idée de savoir que ma fille et ma belle-fille, qui ont 14 ans, là, vont aller dans un monde adolescent dans lequel on boit moins, dans lequel on fait moins l'amour, dans lequel... Mais moi, ça me va très, très bien.
Bah, je sais pas, faire l'amour, c'est pas un mal.
Oui, mais c'est... Oui, bah oui, bah, ça me va.
Je
moi,
dis
ça.
Faire...
mais oui, non, enfin, mais faire l'amour, non, mais faire c'est l'amour, c'est très bien. Mais bien sûr, mais prends ton temps, ma chérie.
Oui, c'est pas une priorité à 14 ans.
Voilà, c'est pas une priorité.
Non, mais
c'est pas.
Non, mais attention. Non, non, non,
il y a pas de
chiffres.
C'est génial. Je trouve que pour une fois qu'on est dans le top 3 de ceux qui sont les moins bons. Mais je suis vachement fier qu'on soit dans le top 3 européen de ceux qui boivent le moins d'alcool.
Excusez-moi, mais moi, en tout cas, mais qui est près d'un tiers des 18-24 ans qui n'ont pas fait l'amour l'année dernière. Pardon, moi, ça m'interpelle quand même. Je me dis, il y a quand même quelque chose qui est étonnant. Ça ne serait jamais arrivé à notre époque. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien de pas faire l'amour. Encore une fois, je parle de deux personnes consentantes, etc. Il y a pas de voilà. Mais faire l'amour, c'est quand même un truc. Normalement, c'est un truc qu'on fait quand on est jeune. Je parle de 18 ans.
Normalement, c'est bien.
On le fait ensuite, pas que. Ça s'arrête pas.
C'est important.
C'est pas que quand on est jeune.
Oui, enfin, si tu le fais pas à 18-24 ans, pardon. C'est quand même un âge où normalement, tu découvres plein de choses, etc.
Oui.
Et aujourd'hui, on fait du tricot. Bon, très bien.
C'est sûr qu'après une soirée.
C'est pas le tricot qui nous paiera nos retraites, pardon.
Et c'est pas non plus après une soirée jeu de société ou tricot, effectivement, que normalement ça bascule.
Oui.
Une soirée boîte de nuit alcool, ça bascule un peu plus souvent.
Je Est-ce dis que pas c'est qu'il le faut bon boire modèle pour faire l'amour.
Non, pas du tout. Mais moi, ça me va. Moi, je suis pas très inquiet par ce.
D'accord.
Bon. Et moi, j'ai une fille qui fait du tricot, du crochet, pardon.
Oui, très bien.
Et hier, elle m'a dit, je vais faire du crochet. J'étais trop content. Je lui ai dit, vas-y, ma puce.
Oui, mais parce qu'elle a 14 ans, mais quand elle en aura 20. Peut-être que tu diras,
elle a 20 ans et qu'elle fait du crochet et qu'elle est effectivement avec des chaussons et un petit plaid sur le canapé comme une vieille grand-mère, je m'inquiéterais. Mais on n'en est pas là. Et elle est quand même... ça va, moi j'ai l'impression qu'elle va bien, cette génération.
Oui.
À part, moi je préfère cette génération-là que ceux qui sont en train de faire la queue pour se choper des testicroustilles avant d'aller s'envoyer des bonbonnes de protoxyde d'azote.
Je crois que c'est les mêmes.
Bah, je crois que ceux qui sont testicroustilles, je sais pas. Moi, je suis pas hyper enthousiaste sur cette génération, je vais vous dire honnêtement.
On peut manger du testicroustille en faisant du tricot, hein. Les deux ne sont pas,
antinomiques. Ouais,
c'est vrai. Jérôme Lavrieux, est-ce que ça vous réjouit de voir que nos jeunes, finalement, sont plus sages, certainement, que nous? Ou est-ce que quelque part, vous dites, c'est un peu dommage?
Pourquoi ce serait sage de pas boire d'alcool et de pas, tirer des coups en permanence?
J'ai dit faire l'amour.
Oui, mais je pense qu'ils font plus l'amour.
Ah bon?
Ouais. Je pense qu'ils font l'amour. Ils sont pas dans une obligation d'avoir des relations sexuelles, parce qu'il y aurait un dogme qui dirait, s'il y a 17 ans, t'as pas eu 4 expériences, t'as raté ta vie. Ils ont le temps, ils le font à leur rythme. D'ailleurs, dans ce que nous disait Charles, qui est notre référence à nous tous, quand il dit, les spécialistes mettent ça en lien avec le mouvement MeToo. Bah, peut-être que le consentement, ça devient quelque chose.
Ouais. Mais ça, c'est très bien, ça.
Donc, réjouissons-nous. Et moi, j'ai jamais pensé que c'était bien de se bourrer tous les samedis, tous les vendredis, tous les je sais pas quoi. En quoi ce serait bien? Moi, peut-être qu'ils nous ont vus et s'ils se sont dit, c'est pas terrible.
Bah, en fait, c'est pas vraiment l'alcool, c'est des sorties. C'est-à-dire qu'on sortait en boîte, etc. On n'était pas obligé de se rouler par terre en sortant en boîte, ni de coucher. C'est pas le problème, mais il y avait ce côté festif qu'il y a moins aujourd'hui.
Mais les jeunes,
je suis désolée,
moi j'en reçois
les soirées tricot, même si c'est
mais
génial,
non, mais
et là, c'est moins
festif. Soirées tricot. Je reçois souvent dans mes gîtes des
fois que t'as joué aux petits chevaux, t'es pas dans un état d'esprit, t'es pas dans un monde.
Je reçois beaucoup dans mes gîtes des
jeux de loi, c'est sympa, mais.
Ils jouent à saute-mouton.
Oui.
Ils
font un twister.
Mais je reçois beaucoup beaucoup de groupes de jeunes dans mes gîtes.
Oui.
Ils consomment, c'est vrai, moins que ceux qui sont plus vieux qu'eux. Oui. Et ils font des week-ends jeux de société. Ils sont pas tristes, ils s'éclatent, etc. Ils sont dans la convivialité. Ils sont pas en train de se bourrer en chantant à 3h du matin sur la terrasse. Et pourtant, ils passent des très bons week-ends. Donc, c'est très bien pour eux.
Karine Galli.
Oui, non, franchement, là, on peut s'alarmer.
Vous avez passé une jeunesse plutôt boîte de nuit ou plutôt tricot?
Eh bien, les deux.
Ah oui.
C'est-à-dire que je faisais du canevas, je faisais du crochet.
Moi aussi, je faisais une canevas.
Voilà. Et j'adorais ça. Alors moi, j'avais pas le droit de sortir en boîte de nuit, parce que mes parents m'interdisaient.
Mais
évidemment.
À 20 ans, je veux dire.
Mais évidemment, surtout quand j'allais dormir chez ma meilleure amie, on sortait quand même. Même si maman et papa n'étaient pas d'accord. Mais après, c'est vrai que je suis beaucoup sortie, mais à partir du moment où j'étais adulte, donc plus vers 18 ans, 19 ans, etc. Mais honnêtement, quand tu vois qu'effectivement, on te dit, les jeunes, a priori, ils fument beaucoup moins. Nous, à l'époque, c'était à la mode, c'était cool de tester la cigarette, donc de se mettre finalement à la cigarette, et qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui les attire. Pareil pour l'alcool, c'est quand même une très bonne nouvelle.
Oui.
Mais après, dans le même temps, il y a aussi quand même un isolement. C'est-à-dire que nous, on était peut-être plus inconscients dans le sens qu'on était plus joyeux et on nous laissait vraiment avoir des étapes dans la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des enfants de 10 ans, on appelle ça des jeunes filles ou des jeunes garçons. Non, à 10 ans, t'es encore un enfant. Et on est en train de projeter trop rapidement, en fait, l'âge adulte sur les gens. Et donc, on leur donne des responsabilités folles. Par exemple, à 18 ans, tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie, mais c'est pas grave. Mais moi non plus, je savais pas ce que je voulais faire à 18 ans. J'avais des centres d'intérêt, mais j'étais.
Mais ils ont plus la pression aujourd'hui.
Mais oui, c'est-à-dire qu'on met une pression sur tout. C'est-à-dire qu'on te dit, il va falloir que tu travailles, il va falloir que tu fasses des études, il va falloir que tu saches. Ben non, en fait, ne pas savoir, c'est pas grave. Parfois, être un peu oisif, c'est pas forcément grave. Tu dois essayer, entreprendre, et puis après, on voit ce qui se passe. Mais honnêtement, quand tu parles à la jeunesse, tu leur offres un horizon qui est quand même très sombre.
Ouais.
Tu leur dis que le monde va mal.
La société est moins joyeuse,
voilà,
en fait.
Le monde va mal. Le chômage augmente, peut-être une troisième guerre mondiale va nous tomber sur le nez.
Mais tu pourras avoir un truc un peu one life. Bah, faisons la fête, amusons-nous.
Mais les jeunes, ils font quand même la fête, mais différemment. C'est-à-dire que, comme dit Jérôme, le week-end, jeu de société, je trouve pas ça du tout glauque. Le principal, c'est qu'ils soient entre eux et qu'ils aient envie de faire quelque chose. Quand tu pars en sac à dos, en vacances avec tes amis, mais c'est pas obligé de te bourrer la gueule ce soir.
C'est génial.
Pourtant, tu as un moment de convivialité, tu fais quelque chose à plusieurs. Moi, c'est plus l'isolement de certains jeunes qui, évidemment, montre qu'il y a plus de dépression, plus de questionnement qu'à notre époque. Mais tout le reste, c'est positif. Si tu veux faire du canevas toute la soirée et que c'est ton choix et que ça te procure un plaisir, Super.
Parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas mentionné depuis tout à l'heure. Là, on fait comme si à la place d'aller en boîte, ils faisaient tous les samedis soirs des grandes soirées jeux de société au tricot. Là, l'éléphant au milieu de la pièce, ce sont les écrans.
Ouais,
aujourd'hui, ils ont Netflix. À notre époque, il n'y avait pas un programme sexy derrière l'écran. Mmh. Rester à la maison le samedi soir, c'était...
On regardait Angélique, Marquise des Anges, bon voilà, avec notre grand-mère. Voilà.
Ou fallait aller au vidéoclub, etc. Mmh. Enfin, c'était moins sexy quand même. Même les jeux vidéo sur la console. Oui, voilà, fallait partager l'écran en famille. C'était un rendez-vous familial. Aujourd'hui, chacun est dans sa chambre, avec son écran. Et forcément, le samedi soir, ils ont parfois plus envie. C'est tentant une soirée Netflix. Ça paraît cool à nos âges, à 40, 50 ans, de se dire on reste tranquille à la maison devant Netflix.
Mais jamais on aurait fait ça quand on avait 20 ans. Enfin,
parce que les souvenirs, c'est commun, cool. Donc il faut que tu sois en bande. Moi, je me rappelle que tous les week-ends,
aujourd'hui, ils sont moins en bande.
Voilà, quand mes parents ils acceptaient, on faisait des soirées chez les uns et chez les autres, en fait.
Il y a plus de boom, par exemple, aujourd'hui.
Mais oui, les boom. Il y a plus. Les boom, c'est génial.
Il y a quasiment plus de boom.
Moi, j'ai des soirées pyjama.
Je suis en plein dedans, c'est boum, boum, boum. Moi, c'est que ça. Moi, le mois de juin, c'est le mois des booms. J'ai déjà ma fille qui me demande, papa, tel jour, tu peux venir me chercher le soir. Je suis là, ouais, t'inquiète, je vais être là à l'heure, hein, je peux te dire. D'ailleurs, Jeanne, je serai à l'heure le soir de la boum. J'ai que des booms.
Bah, écoute,
c'est bien les booms.
En vrai, c'est quand même en voie de disparition. Nous, on en avait toutes les semaines. Bah, c'est plus le cas aujourd'hui, quoi.
C'est une grosse fêtarde.
Non, les booms dans les garages, là, c'était quoi? On avait 16 ans. Mais là, il y en a quand même beaucoup moins. Il y a eu plein d'articles sur justement la disparition des booms. Il n'y a plus de slow, par exemple. On dansait des slow avant.
Oui, mais on nous invite. Oui, on était toujours inquiets.
Bah oui, mais
si t'avais le dernier, etc.
Oui, non, mais enfin, au moins
géniaux.
Oui, mais il y avait,
on s'en souvient encore.
Voilà, exactement. On se souvient de slow. Ben oui, mais maintenant il y a plus de slow. Et dans les slow, favoriser aussi les rapprochements. Voilà, tout simplement. On a des messages sur WhatsApp, Charles.
Mais bien sûr, le message de Brandon qui nous dit, mais regardez le prix des sorties, ça n'a rien à voir avec votre époque. Vous réfléchissez avec les prix de votre époque, mais aujourd'hui, une sortie en boîte, même une sortie culturelle,
nous, tout court, c'est devenu.
Oui, bah, aujourd'hui, c'est devenu beaucoup trop cher de se payer une sortie.
Toujours pas en boîte, hein.
Nous raconte Brandon. Steph nous dit, les jeunes sortiraient beaucoup plus s'ils n'avaient pas aussi cette angoisse au niveau de la sécurité. Et leurs parents aussi, d'ailleurs, ont très peur désormais dès qu'ils sortent. Et puis, ils sont constamment sur leur portable devant Netflix. À mon époque, on sortait, c'est là qu'on rencontrait des gens, qu'on avait de vraies interactions sociales. Aujourd'hui, ils se rencontrent par écran interposé.
Et on a Gaël qui nous appelle de Dordogne. Il est auto-entrepreneur. Bonjour Gaël.
Bonjour.
Gaël, quel âge avez-vous?
J'ai 48 ans, j'ai trois enfants, un de 17, un de 19.
Ouais.
Donc j'ai la chance effectivement qu'ils consomment pas quand ils vont en soirée, ils sont plutôt tendance à ramasser les copains que de se ramasser eux-mêmes.
Par Très contre, bien.
Moi ce qui me fait un peu peur dans tout ça, c'est que avec la répression qu'on fait notamment sur le cannabis, sur l'alcool, sur ces choses-là, donc je dis pas que c'est un bien qui c'est un mal qui boit plus, qui fume pas, mais le problème c'est qu'ils j'en vois beaucoup qui se tournent vers d'autres molécules de synthèse en fait.
Protoxyde d'azote.
Il y a pas que ça maintenant, il y a même, vous savez, dans le CBD, il y a des choses très bien, mais il y a des choses que les gens cherchent beaucoup plus fort. En fait, ils veulent pouvoir sortir sans se faire contrôler, sans se faire machin, donc ils prennent des pilules, ils prennent des choses comme ça. Dans mon entourage, moi, il y a des jeunes des copains de mes copains qui ont fini à l'hôpital, ils essayent des nouveaux trucs en fait. Et
d'accord.
Le problème c'est ça, c'est comme on dit, l'alcool, c'est mal. Mais bon, maintenant, il y a tellement de répression là-dessus, même le cannabis, il y a tellement de répression là-dessus, que, ils se tournent vers d'autres choses, et qui sont
pas forcément
plus puissants et beaucoup plus dangereux, quoi. Voilà. Moi, c'est par rapport à ça.
Mais ils font la fête, vos ados, ou pas? Ils font la fête, Gaël, vos ados, ou pas?
Ils font la fête, ouais, moins que nous.
Ouais.
C'est sûr que nous, on y allait un peu plus franco. Mm. Mais si, ils le font, et c'est vrai que dans les soirées, maintenant, avant, la plupart des gens étaient un peu bourrés ou quoi. Maintenant, ils me disent, il y en a deux, trois qui se mettent ça, et puis le reste, c'est plus tranquille, effectivement. Ça finit en jeu de société, ça finit en truc comme ça. C'est vrai que c'est moins folichon qu'avant, quoi.
Bon, après, tant mieux si les jeunes ne terminent pas en coma éthylique. Ça, c'est plutôt
c'est
une bonne chose.
C'est moins cool d'être bourré, alors qu'à notre génération, il y a une espèce de concours de celui qui râle plus loin, etc.
Oui, mais il y a une avancée, Charles.
Mais c'est
adulte, quand t'as un poivreau. Quand tu fais un apéro, aujourd'hui tu le pointes du doigt, alors qu'avant tu trouvais que c'était rigolo qu'il y en ait un qui déborde un peu.
C'est que les jeunes vont vers d'autres choses, quoi. Moi, c'est ça plus qui m'inquiète et qui me fait peur. Pourtant, je suis dans le Périgord, j'ai quitté la région parisienne pour toutes ces choses-là. Et malheureusement, quand j'entends autour de moi, je veux dire, même au lycée, quand il y a de la kétamine qui tourne ou des choses comme ça, ça me choque. Moi, à notre époque, on fumait un pétard, on buvait l'apéro, on était bien, quoi, ça allait. Maintenant, quand même au lycée, ils se mettent du poppers, de la kétamine, des choses comme ça en plein cours, là, excusez-moi, mais je trouve ça... Donc c'est vrai qu'ils fument plus de bédos, ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils se mettent dedans, dans la tête, quoi.
Ouais, donc c'est pas mieux, en fait.
C'est un peu peur, quoi.
Ouais, ils sont pas du tout plus sages. En fait, nous adultes, on se dit ah bah tiens, ils font moins la fête. Mais en fait, on se fout peut-être le doigt dans l'œil. Merci beaucoup. En tout cas, Gaëlle, de notre témoignage, Gaëlle qui nous appelait de Dordogne. Et puis vous êtes aussi nombreux à nous écrire sur WhatsApp, Charles.
Oui, comme Anthony qui nous dit oui, ils sortent moins, mais il me semble aussi pour certains beaucoup plus perdus en quête d'identité, beaucoup plus solitaires. C'est plutôt ça dont il faut s'inquiéter. C'est pas forcément de la sagesse parfois. C'est justement qu'ils sont un peu tristes. Moi, je trouve ces jeunes. Nous dit Anthony, Nicole. Voilà, nous dit, bah oui, mais il y a 30 ans, avec 200 francs, on pouvait se faire bowling, McDo, Cinoche et boîte de nuit. Aujourd'hui, il faut 200 euros pour faire la même chose. Donc, c'est forcément plus compliqué de sortir quand on est jeune. Et puis, on vous a posé la question aussi hein, sur nos réseaux. Moins d'alcool, moins de sexe. Est-ce que nos ados sont devenus trop sages? Ça a été serré jusqu'au bout, mais c'est finalement non à 60%. Vous ne les trouvez pas trop sages.
Et c'est heureux. Donc, il est 14h20. C'est l'heure du tu préfères. Le tu préfères de Charles aujourd'hui. C'est parti.
RMC, Estelle Midi, tu préfères.
Et oui, c'est Charles Magnien qui est en pleine réflexion en ce moment pour son
avec
intérieur
mes équipes. Oui,
et qui nous a donc suggéré ce tu préfères très personnel. Et donc, on va essayer de l'aider, Charles Magnien, avec ce tu préfères volet ou rideau. Charles se demande, Karine Galli.
Voler, mille fois voler.
Ah.
Je ne supporte pas la lumière quand je dors, sinon ça me réveille. Donc, c'est vrai que moi j'ai été surprise parce que par exemple dans le sud, tu as des volets et c'est totalement classique. Alors quand je suis arrivée à Paris, j'avais pas de volets.
Bah oui.
J'avais des rideaux et c'était l'enfer. Et d'ailleurs, j'avais complètement occulté ma fenêtre de ma chambre parce que.
Comme les serial killers.
Bah oui.
Des sacs poubelles.
Écoutez, mais je préférais dormir. Vous savez que je suis un gros chat qui adore dormir. Et le problème, c'est que vu qu'en plus.
Et vous pouvez pas acheter des rideaux occultants? Enfin,
je veux dire. Les rideaux étaient occultants, mais par rapport à la position de la tringle, etc., il y avait quand même trop d'espace entre la vitre et le rideau. Et donc, la lumière passait. Donc, j'avais mis des affiches de magazines, de journaux et tout pour tout occulter. Ah oui, non, mais moi, c'est la nuit.
C'est sympa,
noire.
Un jour chez vous.
Bon, écoutez, ça, c'est la chambre, c'est fait pour dormir, hein, c'est pas grave.
D'accord, ouais. C'est un peu. Je sais pas si ça vous aide, Charles.
Ouais, non, pas
mais c'est, les volets, alors, c'est très important.
Mais volets déroulants, dépliants, électriques, pas électriques, il y a volets et volets.
Ah bah, volets électriques.
Ouais. Non, mais moi, alors, après, non, c'est moi je préfère les vrais volets, mais ça, c'est plus dans les maisons. Parce que votre délire de volet roulant, là, c'est super. Et puis, il y a une panne d'électricité.
Tu changes les piles.
Vous êtes marron. Non, non, il y a une panne. Général.
Oui, et ben, c'est pas très grave. Tu dors une nuit sans ton volet roulant et puis t'appelles un dépanneur le lendemain.
Ça peut durer rien de mieux que les petits volets, voilà, manuels. Tu fais ton petit micmac et c'est très pratique.
Baptiste Desmontiers.
J'aime les volets. Mais j'aime les volets au
et
sens
volets
où c'est un souvenir. Alors moi j'ai des volets qui se rabattent comme ça. Ben en fait ouais, c'est les souvenirs de vacances.
Oui.
C'est les volets qu'on ferme aussi le jour quand il fait chaud pour que ça garde la fraîcheur à l'intérieur.
Oui.
J'aime bien. J'ai toujours eu des volets. J'ai habité à Paris aussi. J'ai pas fait le psycho moi, à coller des journaux.
Oui.
Mais je me souviens aussi d'avoir. Je suis moins sensible que toi à la lumière, ma compagne l'est. Mais moi j'aime les volets qui se ferment. Je sais pas, il y a un côté un peu vacances.
Et le bruit.
Exactement. J'étais en Touraine ce week-end. Pareil, il a des gros volets. Vous savez, avec mon cousin, avec des.
Tu sais, les deux petits trucs qui se lèvent.
Voilà,
là.
Mais en métal. J'aime ces trucs. Je sais pas. J'aime ça. Et puis paf, le volet qui claque.
Toujours au moment où il faut pas.
Exactement. Et le volet, faut accepter aussi que c'est toujours la corvée. Allez, un été sur, je sais pas combien, tu te retrouves à décaper les volets dans les maisons de campagne. Je sais pas. Il y a une espèce de truc. C'est un peu une Madeleine de Proust.
Ouais. Vous avez fait un gros reportage sur les volets ou pas?
Pas encore, mais vous savez, je fais de moins en moins de grands reportages.
Pour le service public.
Pas
avec nos impôts.
Avec vos impôts, bien sûr.
Parce que nos impôts ont financé une enquête sur les volets.
Exactement. Non, des trucs un peu plus engagés, mais.
Vous savez,
je suis déjà étonné d'avoir tenu.
On a les
10
combats
secondes.
Qu'on mérite. Alors, justement, tiens, Jérôme Lavrieux, dans vos gîtes, on est volet ou on est rideau?
Rideau.
Ah, oh, ben j'irai pas. Ouais.
Ah, eh ben, attends. Je pense que je vais m'en remettre.
Oh, ça tira pas le réel, ça y est.
Pour une raison simple, en fait, tout, sauf les volets électriques.
Ah bon?
Je trouve que c'est très dangereux et Karine avait raison.
Personne n'a été tué par un volet électrique. Ah bah, ça serait
c'est
pas une guillotine.
Alors, c'est totalement faux. Quand il y a eu la tempête en Vendée à la Faute sur mer, il y a des gens, parce que c'est des maisons rez-de-chaussée sans étage, panne générale électrique, les volets étaient fermés, des gens sont morts noyés chez eux parce qu'on n'a pas pu soulever les volets, ouvrir les volets, ils ont été obligés de sortir par le toit, il n'y avait pas d'autre issue. Et je trouve que les volets électriques, c'est très dangereux quand il y a une panne d'électricité.
Ah bon, pardon, mais on
désolé de le dire, mais moi ça me fait psychoter. Pardon. Franchement, non.
Alors, tout le monde ne meurt
les volets
pas,
qui se rabattent, etc., ok, mais des vols électriques en cas de panne d'électricité, je suis comme Karine, je trouve
mais
que...
Mais t'es prisonnier.
C'est dangereux, t'es prisonnier dans une
oui,
boîte.
Oui, enfin, d'accord, non.
Okay. Tu es le débat, c'est quand même. Ouais, la peau de sur mer, la peau de sur
mer. Il y a un incendie dans ton immeuble. T'habites au quatrième, les pompiers viennent, c'est que des vols électriques, ils ont coupé l'électricité.
Oui.
Bah, tu fais comment?
De toute façon, je vais pas sauter par la fenêtre du quatrième.
Non, et avec la grande échelle, tu fais comment? Ils perdent des minutes précieuses à dégonder des volets.
Mais d'accord, mais personne, en fait, ne ferme les volets de toute sa maison.
Je veux pas être méchant, mais je pense, par
exemple. Bah, t'as même, avec la domotique, t'appuies sur une touche, tous les volets de ta maison se ferment.
Mais personne ne fait ça. Tu fermes les volets que de ta chambre.
Bah, fais-le. Moi, je ferai ma sauce et on verra qui.
Qui mourra.
Quand il y aura
On verra quand il y aura la tempête.
Quand il y aura le tsunami en Dordogne.
On verra qui mourra le premier à cause de ces volets.
Je suis pas sûr que les pompiers aient beaucoup plus de mal à dégonder les gros volets en bois, là, que ton petit volet électrique.
Mais
il y a eu des morts. Oui. Et Mika nous précise que les volets électriques désormais sont équipés d'une manivelle en cas de panne, donc on peut au cas où.
Moi j'ai pas de manivelle chez moi.
Les volets modernes en tout cas.
Ah ben c'est non, mais moi ils sont modernes, mais j'ai pas de manivelle.
Ben, il faut se mettre à jour. Il y a aussi des volets électriques qui fonctionnent avec des panneaux solaires, nous précise Nathalie, pour fonctionner. Bah oui, même en cas de panne de secteur. Et puis, non, mais ça vous divise, assez clairement.
Mais les volets. C'est un très bon tu préfères.
Mais oui, Laurent nous dit les rideaux, c'est complètement ringard. Vive les volets. À l'inverse, Sandra nous dit de beaux rideaux, c'est magnifique. Ça habille une pièce parce qu'il y a aussi
Mais c'est très cher.
C'est vrai.
De beaux rideaux, c'est très cher, Charles.
Bah oui, mais c'est de la déco. Mais c'est des mètres carrés de perdu aussi. Ça prend de la place, les rideaux.
Donc, il se
met la place, faut pas exagérer.
Si, je trouve dans les petits apparts parisiens, ça prend de la place des beaux rideaux. Mais si. Oui.
Donc, vous êtes rideau. Volet.
Je suis rien. En fait, moi, je ferme les volets de ma chambre à mi-hauteur. Donc, voilà, comme ça, j'ai
un lumière qui entre.
Et elle tire qu'un seul des deux rideaux.
Mais non, parce que
j'ai le soleil.
Mais après, en vrai, je m'en fous. Je me lève à 6h15. Donc, bon, bah voilà. Mais j'ai un peu de lumière. Comme ça, j'ai pas l'impression d'être close. Trop. Et donc, le vrai soleil ne me gêne pas parce qu'il y a le rideau et en bas, je laisse 50 cm en bas.
Mais en Bretagne?
Eh ben, en Bretagne, je suis en travaux. Non, j'ai des volets en bois.
Mais c'est beau, voilà. C'est magnifique.
C'est vacances. Beau, mais en fait, il y a du vent, t'as toujours plus peur de te prendre, etc. Ouais. Non, c'est pas si facile.
Et puis, quand vous avez un manoir en Bretagne avec 200 volets, c'est du boulot aussi
dans le
Bretagne. Il faut un employé.
Ça n'a rien à voir.
J'aime entretenir la rumeur.
De toute façon, je suis en travaux. Donc,
En rénovation. On vous a posé en restauration. La question sur nos réseaux, volets ou rideaux, eh ben, clairement, les volets ont plié le game.
Mais
79%
oui.
Pour les volets.
Vive les
dans un instant, Jérôme, là c'est pour vous, hein, RMC Conso, on va parler des cyberattaques qui se multiplient dans le secteur du tourisme. Attention à vos données lorsque vous réservez vos vacances. On vous racontera tout ça dans un instant avec Sofiane et Akoufa tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Il est 14h30, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, et tout de suite c'est RMC Conso avec Sophia Lacouf.
Estelle Midi,
RMC Conso.
Alors, Sofiane Aklouf a débarqué dans le studio comme s'il allait négocier un prêt à la banque. Il a mis le costard, la cravate. On est sur BFM Business.
Mais si je peux vous faire 3,5% sur 20 ans, Estelle, si vous voulez.
Non, je peux avoir moins, je pense. Je suis une très bonne
intéressante. Sofiane, il ne sait pas à qui il parle.
Tout négocier.
Je vais laisser ta veste.
En tout cas, Sofiane, avec vous, on parle d'une mauvaise nouvelle, encore une fois, avec les cyberattaques qui se multiplient dans le secteur du tourisme. Après Pierre et Vacances, samedi, après Bellambra, dimanche. Eh bien, on vient d'apprendre que Gîtes de France avait aussi été touché par une fuite de données. Ça fait quand même beaucoup.
Oui.
Il y a des risques quand on réserve, quoi.
Oui, il y a des risques. Et en fait, ce qui est frappant dans cette affaire, c'est l'ampleur. Parce qu'on ne parle pas de quelques personnes par-ci, par-là. Non, c'est vraiment toutes les données des sites qui sont complètement volées. Chez Pierre et Vacances Center Parks, parce que c'est le même groupe en réalité, on parle d'1,6 million personnes et de réservations potentiellement concernées. Chez Bellambra, selon le site spécialisé qui a pointé du doigt cette fuite de données, on parle de 400 000 personnes. Même chose, même nombre de personnes chez Gîtes de France. En fait, donc, c'est trois grands groupes en seulement 48 heures. Et si on est aussi nombreux à être concernés, c'est parce qu'en fait, toutes ces entreprises, elles gardent nos données et assez longtemps. Parce que, par exemple, le groupe Pierre et Vacances, ils ont pu remonter le listing de clients jusqu'en 2015.
Hein?
Bah oui, donc, fatalement, c'est comme ça qu'on se retrouve avec plus d'1,5 million de clients parce que tout le monde garde nos données et garde dans ses fichiers pour pouvoir nous envoyer des mails, notamment de relance. Mais voilà ce que ça donne.
La bonne nouvelle, c'est quand même que les groupes disent qu'aucune donnée bancaire n'a été volée.
Oui, heureusement, il n'y a pas nos numéros de carte bancaire, il n'y a pas nos mots de passe. Bon, ça, on va dire que c'est un peu le discours pour nous rassurer. Certes, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que c'est pas grave. Parce que quand vous avez le nom, prénom, on sait que vous vous appelez Estelle Denis. Bon, ça, tout le monde le sait, c'est pas un problème. Le numéro de téléphone, ça devient un petit peu plus problématique. La date de naissance, bon, ça, certains l'ont, mais pas tout le monde. Les détails des réservations, dans quel camping, dans quel hôtel vous avez dormi. Et puis, par exemple, avec Pierre et Vacances, toutes les infos sur les mineurs qui vous accompagnent. Moi, c'est ça qui me choque le plus dans cette histoire. C'est-à-dire que vous avez des enfants qui sont même pas en âge de réserver par eux-mêmes. Et puis, finalement, ils se retrouvent en première ligne aux cibles de ces arnaques. Puisque, en fait, les hackers ont tous ces tas d'informations et ces détails très précis pour monter des arnaques après qui nous retombent dessus, finalement.
Alors, mais ça veut dire qu'en fait, il faut s'attendre à plein de mails, d'appels ou de SMS d'arnaque après cette fuite.
Oui, c'est ça qu'on va recevoir en réalité. Vous allez avoir un faux SMS de votre loueur ou un faux mail de remboursement qui va vous dire « Vous aviez 150 euros de trop perçus l'année dernière, venez les récupérer en cliquant sur ce lien ». Ou à l'inverse, il vous manque 150 euros que vous n'avez pas encore payé, donc cliquez sur ce lien, ça va être le problème. Ou encore un appel, et là c'est le gros risque, des appels frauduleux, le service client, soi-disant, qui va vous appeler pour vous faire réserver. Et donc, évidemment, vous donnez vos coordonnées bancaires. Donc, on le redit, c'est classique, mais ça mange pas de pain. Vous cliquez jamais sur un lien reçu par message, même si le message paraît crédible. On va tout de suite sur la plateforme directement ou sur le site. Et puis, on se connecte. Et puis, surtout, on va changer son mot de passe. Vous voyez, parce qu'on sait jamais s'il est dans la fuite de données, ou si pire, c'est le mot de passe qu'on utilise pour tous les sites et internet, notamment pour son Instagram, son Facebook, etc. Il faut changer parce que sinon, ça va être pris. Et puis, il faut quand même garder un œil sur les coordonnées bancaires, sur vos données, notamment sur votre téléphone, parce que on sait jamais. Tout est fait pour prendre de l'argent sur votre compte bancaire. Donc là, c'est le moment de regarder.
Comment est-ce qu'on peut expliquer que le tourisme soit devenu une cible idéale pour les hackers?
Parce qu'en fait, il y a tout, en fait. Dans le tourisme, il y a toutes nos données, toute notre vie. On connaît nos goûts quand on connaît nos habitudes de voyage, on connaît nos habitudes de consommation. Ouais. C'est un peu comme notre chariot de course quand on a la carte fidélité. Effectivement, on a tous les données des clients. Là, c'est un petit peu la même chose. Et puis, ça fonctionne bien parce qu'on passe moins par les agences de voyage, on passe beaucoup plus par Internet. Et donc, là-dessus, évidemment, on est stressé, il faut réserver pour le bon nombre de personnes, pas se tromper pour l'appartement, etc. Et donc, on est plus susceptible de cliquer sur la mauvaise case, puisqu'on est stressé et pressé. Et puis, c'est la bonne période en ce moment. Il y a les ponts de mai, effectivement, il reste la Pentecôte, et puis il y a les réservations pour cet été. Donc, fatalement, on peut faire l'erreur et cliquer sur le mauvais lien. C'est pour ça. Et puis surtout, en fait, ces plateformes, elles reposent sur des systèmes de prestataires. Donc, c'est-à-dire, quand vous allez sur Pierre et Vacances, vous avez tout un tas de filiales, de sous-traitants qui, eux-mêmes, ont leur site Internet. Et donc, ça multiplie les failles de sécurité. Et donc, résultat, vous prenez un gros risque, finalement, sans le savoir.
Est-ce qu'on a un recours, quand même, contre ces fuites de données?
Oui, parce que les entreprises, elles ont en théorie l'obligation de signaler les violations de données à la CNIL et de vous envoyer un message pour vous dire que vous êtes potentiellement concerné par une fuite de données. Vous pouvez toujours, si vous considérez que vous êtes victime d'un préjudice, porter plainte. Bon, dans les faits, qui va le faire? Sauf s'il y a la totalité de vos vacances, évidemment, de la somme de vos vacances qui a disparu. Et de toute façon, les fuites, elles sont de plus en plus nombreuses en France. Il faut juste en avoir conscience. On est l'un des pays les plus touchés en Europe parce qu'on n'est pas du tout prêt face à cette déferlante. On compte 85 fuite de données par an, selon le site French Bridge, qui a pointé du doigt ces cyberattaques. Donc ça veut dire plus d'une par jour. Et encore, ça,
485,
pardon. Ça veut dire, c'est uniquement pour celles qui sont identifiées ou déclarées. Il y en a peut-être des tas qu'on ne connaît pas. Et nos données sont dans la nature sans jamais qu'on ne le sache.
Ça m'inquiète beaucoup plus que les volets roulants de Jérôme. Ça, je veux dire que là. Merci beaucoup, Sofiane Aklouf, en tout cas, de nous avoir alerté. Restez vigilants. Donc si vous recevez des mails frauduleux, on ne le dira jamais assez. Merci beaucoup, Sofiane Aklouf, chronique. À retrouver en podcast, c'est la musique des cadeaux, ça.
C'est la musique de la Coupe du Monde, parce que cette semaine sur RMC, vous devenez sélectionneur. Vous allez participer à notre jeu de la liste des 26, mais la liste des 26 cadeaux pour profiter de la Coupe du Monde, des vidéoprojecteurs, des écrans, des barres de son, des maillots de foot, des baby-foot sont à gagner. Si vous envoyez tout de suite le mot liste par SMS au 732-16, liste au 732-16, vous avez 5 minutes pour vous inscrire.
Dans un instant, dans Estelle Midi, les immanquables de Charles, à tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.
Et tout de suite, on va faire un tour sur le WhatsApp de l'émission. On va regarder vos messages. Vous avez été nombreux à réagir, à témoigner au sujet des ados qui sont de plus en plus sages, hein, moins d'alcool, moins de sexe. Quelle tristesse pour la jeunesse, nous écrit Jules. Nico qui nous dit qu'ils fassent un peu moins l'amour, c'est dommage pour eux, mais pour le reste, c'est quand même des signes positifs. Qu'ils boivent moins d'alcool, on devrait s'en réjouir. On ne rappellera jamais assez que l'alcool peut être très dangereux. Jérôme aussi qui nous dit, on ne va pas se plaindre que les gamins picolent moins. J'ai Julien qui nous dit, moi je le vois avec mes enfants, certes ils sortent moins, en fait ils se regroupent à la maison pour jouer ensemble, à la console, aux jeux vidéo, ils sont derrière un écran tous ensemble, en effet c'est peut-être moins dangereux mais peut-être aussi moins épanouissant. Voilà ce que nous dit Julien. Et puis à l'inverse, Christelle nous dit, mais moi je suis à la campagne, mon fils de 17 ans sort tous les week-ends avec ses copains, toujours la même bande de potes, il ne joue pas à des jeux de société, on est obligé même de mettre des règles, c'est toujours celui qui conduit et celui qui ne boit pas, nous rappelle évidemment Christelle. Bravo. Vous continuez à réagir, 0612 424 424 pour participer à l'émission.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
14h41, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, et tout de suite, voici les immanquables de Charles.
RMC, Estelle Midi,
les immanquables.
Les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui avec Karine Galli, bien sûr, Jérôme Lavrieux et Baptiste Desmontiers. Et on commence, Charles, avec l'offre du jour.
C'est Malte, Malte qui va offrir à tous ses citoyens et tous ses résidents un accès gratuit à ChatGPT+, la version premium et payante de l'IA, pendant un an, après avoir suivi une formation en ligne. Pour en bénéficier, les personnes doivent d'abord suivre un cours en ligne gratuit développé par l'Université de Malte. Un cours qui vise à expliquer les capacités de l'IA, ses limites, son utilisation responsable. Et ensuite, grâce à ce programme qui vise donc à équiper chacun d'une version premium de l'IA, Malte veut autonomiser ses citoyens en comblant le fossé entre les connaissances théoriques et l'application pratique au quotidien de l'IA.
C'est une bonne chose, Baptiste Desmontiers.
Ouais, moi je trouve ça pas mal. J'aurais pas envie forcément que la France le fasse, mais je comprends, Malte est vachement en pointe sur... Alors Malte est en pointe sur des trucs pas top aussi, hein, par exemple des casinos, de la fraude, etc. Mais ils ont toujours eu une culture, j'ai l'impression, de ce que je connais de cet État, ils ont toujours eu une culture digitale. Donc ça m'étonne pas que ce soit eux qui proposent ça. Après, quelle sera l'utilité réelle pour le pays, je sais pas. Mais l'idée d'avoir une formation à l'IA, voilà, prise en charge par l'État, c'est pas idiot. Parce que demain, ils se positionnent comme une plateforme d'emploi. Enfin voilà, comme un hub d'emploi plus tard sur toutes les questions de numérique et d'intelligence artificielle en Europe. Donc, je trouve pas idiot.
Mais sans aller jusque-là, Jérôme Lavrieux, est-ce qu'il faudrait enseigner l'IA à nos enfants à partir de maintenant, quoi ?
Non. Enseigner l'IA. Il faut les avertir des travers possibles de l'IA. Mais enseigner l'IA.
Le potentiel qu'il peut y avoir à utiliser l'IA.
Mais la France est, je crois, le deuxième pays au monde où l'IA a le plus vite pénétré. Ouais. Il y a plus de gens qui s'en servent. Ils n'ont pas eu besoin de cours pour s'en servir. Ils arrivent à s'en servir. Malte, ils peuvent le faire. C'est un pays, Malte. Hein. C'est grand pays. Ils sont 400 000 habitants. Donc, tu peux offrir à 400 000 habitants, on va pas l'offrir à 67 millions d'habitants, nous.
Oui, mais ça me paraîtrait pas crétin que tout le monde ait une formation à l'IA, franchement.
Mais le temps que notre État obèse mette en place formation à l'IA, on aura inventé un truc qui n'existe même pas encore.
Commençons par un numéro.
On va nous faire Jospin qui voulait qu'on apprenne sur un Thomson à faire de l'informatique.
Oui, mais n'empêche que regarde, moi j'ai cherché des cours d'IA, je me suis dit, je fais ça de mon côté, là, en fait, je réserve mes vacances avec de l'IA, machin, mais en vrai, je suis nul. J'ai cherché des cours, mais je ne trouve pas. Je ne sais pas à qui m'adresser, etc. Et je me dis...
Et t'as demandé à l'IA ?
Mais, oui, mais c'est en anglais. C'est un autre problème. Bon, mais ça ne me gênerait pas que mes enfants ils aient des cours d'IA,
Mais le problème, c'est pas les enfants. C'est qu'aujourd'hui, il y a une fracture dans la population. Et pas au niveau des enfants. Eux, ils vont s'en servir beaucoup plus vite que nous. C'est des gens qui ont 30, 40, 50 ans qui vont sortir du marché de l'emploi parce qu'ils n'auront pas pris le train de l'IA dans les semaines et les mois qui viennent.
Mais moi, je trouve que c'est une excellente idée parce qu'effectivement, pour moi, c'est du charabia. Je ne sais pas du tout comment on utilise l'IA. Je ne sais pas réellement ce que c'est l'IA. Ok, intelligence artificielle, pour moi, tout est flou. Donc, je suis déjà dépassé. Et parfois, c'est vrai que même à des collègues, je leur demande quelque chose. Je dis, cherche sur ChatGPT. Je dis, mais je sais même pas comment on va sur ChatGPT. J'ai pas ChatGPT. Moi, je suis zéro. Moi, je suis totalement dépassé. J'ai appris la dernière fois, on m'a fait une vanne qui avait une IA qui s'appelait Claude. Je pensais que c'était une blague parce que mon père s'appelle Claude. Donc, j'en suis là. Donc, effectivement. Et j'en ai parlé avec une copine d'une copine qui se trouve qui fait des formations en IA. Et elle me dit, mais en fait, mais elle est basée à Marseille. Et elle me dit, mais en fait, c'est très important parce qu'en fait, sinon, tu vas te prendre un tsunami en pleine poire et tu vas être totalement dépassé. Et je suis déjà dépassé. Donc je trouve que l'idée de Malte, elle est vraiment bonne parce que moi, j'en ai besoin. Je me prends pas encore en main, donc c'est ma faute. C'est moi qui dois aller faire une formation, etc. Mais je trouve que c'est utile parce que même si moi, je suis pas très doué en technologie, je pense que je suis pas la seule complètement perdue dans ce monde-là.
Je prendrai les coordonnées de votre copine après l'émission. Nous allons passer aux vacances du jour.
Ce sont les vacances avec sa belle famille. Enquête Toluna Inside pour Abritel. On a interrogé les Français sur les vacances avec la belle-mère, le beau-père. 60% des répondants sont déjà partis en vacances avec leur belle-mère. 91% disent avoir apprécié l'expérience. C'est du déclaratif, hein, évidemment. 64% des sondés insistent quand même sur l'importance d'avoir suffisamment d'espace pour chacun. 40% juste indispensable de préserver des moments uniquement pour soi ou pour son couple. Mais dans l'ensemble, les parents notamment disent que c'est une aide précieuse d'avoir la belle-mère, le beau-père, les beaux-parents, notamment pour la charge mentale pour ce qui concerne les enfants, l'organisation des repas. Plus globalement, ces vacances avec la belle-famille permettent de consolider les liens entre générations.
Alors, Karine Galli, les vacances avec les beaux-parents?
Ben, ça m'est déjà arrivé, ça s'est bien passé sur une courte période, mais par contre, moi, c'est vrai que j'ai toujours vu ma maman et ma grand-mère, donc sa belle-mère, ne pas du tout s'entendre, et j'en ai quand même des très mauvais souvenirs, des réflexions, des pics, des moments de tension, de gêne, et donc je peux pas dire que ça soit la meilleure des idées. Et même moi, je suis sidérée, par exemple, de voir à quel point, par exemple, un des chéris de ma sœur vient à la maison. Je dis, mais t'as pas envie d'être sans tes beaux-parents, enfin, parce que moi, j'adore mes parents, c'est toute ma vie, mais je veux dire, les pièces rapportées, c'est pas la même chose. Et donc, je suis toujours quand même surprise.
Oui, mais vos parents ont une piscine.
Oui,
voilà. Et ils gardent les petits enfants.
Oui.
Bon bah voilà.
Oui, non mais bien sûr qu'il y a des raisons à ça.
À vos questions,
non mais je suis d'accord. Mais je trouve ça dingue en fait de finalement autant passer de temps avec des gens qui sont pas vraiment.
Mais ils s'en foutent de vos parents. Je veux dire, ils veulent la piscine.
Mais même.
Et la baby-sitter.
Je suis d'accord avec vous, mais c'est-à-dire que moi, je suis absolument fan de mes parents. Mais si c'était pas mes parents, je passerais pas ma vie avec eux.
Mais ça dépend s'ils ont une super baraque à Saint-Tropez avec une piscine, Karine. Oui,
mais enfin, de toute façon, il y a quand même des règles à suivre quand tu es chez des gens ou quand tu n'es pas chez toi.
Oui.
Et donc quand même.
Mais
avec
la tolérance est plus forte, si tu veux, pour tes beaux-parents quand ils ont une piscine et qu'ils gardent les enfants.
Mais ça, je suis d'accord, mais quand même. Et moi, j'ai des souvenirs de ma maman et ma grand-mère. Et franchement, ça fait quand même des moments de tension terrible pendant les vacances. Donc vraiment, moi, je préfère séparer. Voilà.
Alors, Jérôme Lavrieux, vous êtes fiancé. Ça se passe comment avec votre belle-mère?
Alors, ça se passe très bien avec ma belle-mère. Mais les séjours, 2-3 jours, c'est pas mal.
Un bonjour,
t'arrives, tu repars.
Une bise,
quoi.
Je l'embrasse parce que je sais qu'elle nous regarde. Faut que je fasse gaffe.
Ah, ben on l'embrasse.
Mais non, mais si je pars en vacances, je pars en vacances avec ma compagne, avec ma belle-fille. Et voilà, mais c'est la logique des choses. Après, quand on se voit un week-end, les uns les autres, mais c'est pareil avec mes parents. C'est exactement la même chose.
Ah oui.
Franchement, c'est bien. Mais je m'entends toujours bien avec mon ex-belle-mère aussi. Mais je pars pas en vacances avec, et puis elle vient pas en vacances.
D'accord.
C'est moi, quoi. Voilà, c'est bien. Non, j'aime bien les voir, mais ça s'appelle une réunion de famille. Ça s'appelle pas des vacances.
Elle a pas de piscine. Elle a une piscine ou pas?
Qui?
Mais votre belle-mère!
Mais je m'en fous, j'en ai une de piscine.
Ah oui, bon bah.
Ah oui, c'est elle qui s'invite.
Et j'habite dans... Mais non, ils sont super bien. Ma belle-mère, elle est super et tout. Mais
elle a des volets roulants.
Je ne dirai plus rien,
Baptiste Desmontier, vous avez eu plusieurs belles-mères, vous. Beaucoup de belles-mères.
Alors, techniquement deux.
Deux, c'est plusieurs, vous savez.
Deux, c'est plusieurs. Je suis comme Jérôme, j'ai très bon rapport avec mon ex-belle-mère et j'ai même une profonde affection pour mon ex-belle-mère. Je l'aime beaucoup.
Mais plus que l'actuelle, j'ai l'impression.
On va
dire qu'il y a une. Mon ex-femme, j'ai passé 15 ans de ma vie, plus de près de 15 ans de ma vie avec elle, 10 ans de mariage. Je suis parti en vacances. J'ai donc passé des vacances avec mon ex-belle-mère, souvent. Je l'aime beaucoup.
Est-ce que c'était une bonne idée?
Franchement, honnêtement, ouais, parce que déjà parfois on était invité.
Il y avait une piscine.
Voilà.
Non, mais
encore par intérêt.
Non,
pas oui,
que.
Tu viens de dire
non,
que j'étais invité.
Après, est-ce que spontanément, est-ce que je me serais dit, tiens, les enfants et avec ma compagne, on part en vacances et tiens, on va partir avec ta mère. Never, jamais de la vie. En revanche, j'allais passer une semaine. Mes beaux-parents avaient une maison dans la banlieue du Mans, aux alentours du Mans, très jolie maison avec des champs autour, c'était top. J'adore, j'y suis allé plein de fois, très bien. Et ma nouvelle belle-mère, je la connais moins et elle est charmante.
Allez, Baptiste.
Et le problème, c'est pas.
Allez, elle a l'air sympa.
Mais j'ai l'air olympique d'Aviron.
Et le problème, c'est qu'elle vit en appartement et pas dans une maison.
Pas du tout. Mais le problème, c'est pas tellement ma belle-mère actuelle. Oui. Ah, c'est qu'il y a plein d'enfants autour qui sont pas les miens.
Ah, oula.
Je les aime beaucoup. Mais par exemple, ce week-end, je peux vous dire,
ce week-end, il y avait une cousinade du côté de ma belle-mère actuelle.
J'y suis pas allé.
Ah oui.
Je suis allé voir mon cousin, moi.
Et vous avez prétexté quoi?
Rien, j'ai dit ouais, c'est on y va. Et deuxième vie, 45 ans, je suis pas là pour me faire des beaux-parents, moi je l'ai dit hein. Je suis pas là. Moi j'y vais, j'adore, ils sont super gentils, je les aime, mais j'y vais à petit ouais. tranquillement dans mon coin.
J'en connais un qui va pas rentrer tout triron chez lui et acheter un bouquet de fleurs avant de rentrer.
Moi, je pense que
c'est ce soir cuit. Baptiste.
Je sais le programme.
D'ailleurs, on a un message de votre belle-mère sur le WhatsApp.
La belle-mère est colère.
Toutes les belles-mères de France d'ailleurs sont en train d'écrire sur le WhatsApp, elles embrassent toutes Baptiste.
J'aime les belles-mères. Voilà, bravo.
Et on termine avec le record du jour.
Ben oui, il faut en parler quand même. Le record du prix du samplon qui n'a jamais été aussi élevé. C'est l'AFP qui a fait les calculs hier. Le samplon 95 à 2,046 €. C'est 33 centimes de plus qu'au mois de février. Le gasoil, lui, n'est pas à son record, mais on est quand même à 2,15 € en moyenne. C'était monté à 2,38 €. Mais surtout, c'est jeudi que Sébastien Lecornu annoncera, je cite, un nouveau paquet d'aide pour le mois de juin destiné aux secteurs les plus touchés.
Et on attend parce qu'on n'a pas l'impression que les autres aient été versés.
C'est très sectoriel à chaque fois. Selon les professions.
Oui, pas des rouleurs, quoi.
J'ai pas vu un seul message sur les réseaux sociaux en mettant merci Sébastien Lecornu, je viens de recevoir mes 42 euros d'aide.
Donc, mais il manifeste pas.
Oui, voilà. Oui, il y a assez peu de merci. En tout cas, on en débattra évidemment ces jours prochains dans STM Midi. Est-ce qu'il faut continuer les aides justement ciblées ou pas pour les conducteurs pour pallier ces hausses des prix des carburants? C'est la petite musique qui annonce l'entrée dans le studio de Pierre Dorian, le super Moscato Show. Bonjour. Avec un gros programme aujourd'hui, Pierre.
Un beau programme.
Ouais.
D'abord, on va faire un peu le bilan de la saison de Ligue 1. On va démarrer par l'OM. Est-ce que la qualif en Ligue Europa change quelque chose?
Oui. Non, mais c'est si, pas suffisant. Si. Mais c'est
si,
pas
si.
Suffisant.
Ils vont garder un replay, là.
Non mais cette petite musique, comme on dit, commence à monter. Peut-être que Big Bay va rester, je ne sais pas.
C'est pas suffisant.
Je ne suis pas suffisant du tout, mais c'est pas suffisant.
Enfin,
mais c'est
pas
Big
Bay qui est responsable de tout.
Ah bah non, mais personne n'a dit ça.
De toute façon, la tendance n'est pas à ce qui reste.
Non, mais voilà, mais quand t'es l'OM, tu peux pas te satisfaire d'une place en UEFA. C'est pas possible, quoi.
Bah c'est mieux que rien.
D'accord. Hier à 19h,
ça pouvait être rien. Bah oui, il y aura de l'Europe à Marseille l'année prochaine.
Super, oui. Comme tu dis, je suis plutôt d'accord avec toi, Estelle.
Merci, Pierre.
C'est que c'est bien par rapport au marasme dans lequel ils étaient il y a 15 jours.
Deuxième, c'est 9-0. Bon, bah voilà, une fois qu'on a dit ça.
Deuxième budget de France.
Mais ils n'ont pas sauvé tous les meubles. Hein. Bah, ils ont sauvé le tabouret de la salle de bain, c'est tout.
Et bah, ils vont faire un beau parcours en Ligue Europa que prendre 3 fois 3-0.
Oui, mais financièrement, ça ne va pas du tout.
Ben bah, voilà, merci.
Pensez qu'à l'argent.
Ah ben bah, non, mais enfin, c'est le nerf de la guerre quand même.
Les émotions européennes.
Bravo pour ce poncif lâché comme ça. L'argent, c'est le nerf de la guerre.
Je veux dire, Marseille est en grande difficulté.
On avait compris, merci Karine.
Voilà. Donc ils avaient besoin d'une qualification en Ligue des Champions.
Vous avez besoin de quelqu'un pour le débat ou pas? Parce que Karine.
Alors, normalement on est bien équipé, mais on ne sait jamais. Oui. Hein, Karine, tu appelles hein, en 32-16. Hein, pas la formule, hein.
Il faut que je paye en plus. Bah, dis donc.
Ouais, si tu veux, on peut te le faire gratuitement.
Ah mais c'est sympa.
Alors,
ensuite, on va vous expliquer pourquoi Victor Wembanyama n'est pas MVP de la saison NBA. Ouais, voilà, parce que peut-être que vous ne savez pas, mais c'est à peu près normal.
Bah
c'est à peu près normal, parce qu'il y a des mecs très très forts en NBA, et ils vont attendre. Hein.
C'est vrai qu'on le voit beaucoup lui, parce que évidemment on est français, donc on voit plus d'extraits à la télé de Wembanyama que des autres, et donc on se fait peut-être une mauvaise idée.
Alors le rugby, La Rochelle, qui a battu Toulouse, et qui est encore en lice pour les 6 premières places, je sens que le sujet vous passionne
moins.
Ça
ne nous a pas échappé.
Bah, moi
j'ai suivi la défaite de Toulon.
C'est la seule émission qui parle de rugby tous les jours.
Oui, bah, c'est super. France.
Et vous allez faire la montée des marches de Vincent Moscato?
Ah bah, ça, il va nous le raconter,
c'est important.
C'est extraordinaire, mais pourquoi il est monté les
marches?
Ah bah, parce qu'il fait partie de la grande famille du cinéma, Vincent.
Non, mais ça, oui, il a fait
le fils à Joe.
Notamment, mais pas que quand même. Sa filmographie, elle est longue comme le bras. Ah bah oui, vous le savez pas, mais vous allez le découvrir. Écoutez-nous.
Oui, on va écouter avec beaucoup d'attention.
Et puis, quoi encore à Sinner? Yannick Sinner a-t-il un talon d'Achille?
Bah peut-être le nombre de matchs.
Exactement.
Parce que là, il a tellement tout gagné.
Le physique, les matchs longs. On l'a vu encore en difficulté contre Medvedev. Hein.
Ouais. Mais là, pour le coup, on arrive en 3-7 gagnants à Roland-Garros. Il a tout gagné. Il a fait un nombre de matchs.
Il faut le pousser loin.
L'archi favori.
L'archi favori, mais c'est pour jamais. Ouais, peut-être que quelqu'un qui est capable de l'emmener loin dans un match de plus de 3 heures.
Un Français ?
Non. Un Français, il y en a un.
Ouais, Arthur Fils, oui. Mais bon, c'est pas.
Bon, tu vas nous écouter quand même avec tout
mais,
ça.
Mais qu'est-ce que je fais tous les jours ? Évidemment, 15h18h.
Nous avons également l'ouvreuse de l'équipe de France de rugby, Carla Arbez.
Ah, super. Bon, bah écoutez,
défaite en Angleterre.
Le Super Moscato Show, c'est tout de suite. Et nous, on se retrouve demain, midi 15h, dans STM Midi. Et puis, n'oubliez pas les podcasts. Vous pouvez réécouter tous nos débats. On a bien rigolé encore aujourd'hui. RMC.fr, l'appli RMC et toutes les plateformes de téléchargement. À demain sur RMC dans l'Est à midi.